À toutes et à tous, vous êtes en train d'écouter le 7e numéro de La Casa des Babel. Déjà, le 7e numéro, ça avance vite. Je profite de cette introduction pour vous dire d'ores et déjà que la 8e émission ne sera pas samedi prochain, mais samedi 15 décembre. Après quoi, nous marquerons un mois de vacances pour nos reporters qui l'auront bien mérité, et nous reviendrons le 19 janvier. Comme ça, vous êtes prévenus. Cette semaine, nous commencerons par suivre les vents froids. D'abord au Canada, où Anna Vugier nous parlera d'initiatives culturelles des populations autochtones, et spécialement d'un sujet qui nous intéresse particulièrement à cause commune, celui des radios associatives. Nous continuerons en Europe, en Norvège, où à Trondheim, Séverine Flock nous rapportera les difficultés, mais également le plaisir que cela peut être de vivre l'hiver norvégien. Nous irons ensuite à l'autre bout du monde, à Melbourne, où Atina Gendry nous parlera de l'importance toujours grandissante du café dans la société australienne. Nous reviendrons ensuite en Europe pour aller à Prague, où Elisa Aubin, après nous avoir fait un très bon reportage dans une émission précédente sur l'esprit Erasmus, a cette fois-ci interviewé des étudiants au sentiment européen assez fort, mais qui toutefois ne peuvent s'empêcher d'être pessimistes à l'heure actuelle. Et nous terminerons l'émission dans, il faut bien le dire, ce qui est le meilleur pays au monde pour faire un échange universitaire, l'Écosse, puisque j'y suis moi-même, où Laura Lagache nous a concocté un reportage tout particulièrement poignant, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'émission pour le découvrir, sur un symbole, le coquelicot, qui a une signification particulièrement importante, puisque depuis presque 100 ans, il est arboré par une large part de la population lors des commémorations de la Première Guerre mondiale. Tout de suite, le premier reportage, il est signé Anna Vugier, à Vancouver.
Ici au Canada, la liste des stations de radio associatives est longue comme une nuit polaire. Sur la côte ouest, à Vancouver, les 500 programmeurs de coop radio animent les ondes 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Parmi eux, Guenergy O'Sullivan. Elle fait partie de ceux qu'on appelle les Premières Nations, les peuples autochtones canadiens, et a commencé la radio à la fin des années 80. Aujourd'hui, elle participe à 3 émissions hebdomadaires diffusées par Coop Radio. Sine Whale, qu'elle voit comme une plateforme de revalorisation des langues et cultures des Premières Nations. Klaoya, qui porte sur l'actualité et les affaires courantes. Et When Spirit Whispers, qui traite de la réconciliation au Canada. La réconciliation, qu'est-ce que c'est? C'est l'établissement et le maintien d'un respect mutuel entre les peuples autochtones et non autochtones du pays, selon la Commission Vérité et Réconciliation canadienne. Je l'ai rencontré et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur When Spirit Whispers. Littéralement, quand l'esprit murmure.
Yeah, that is a good show. When Spirit Whispers used to be on it.
Oui, c'est une bonne émission. When Spirit Whispers était d'habitude diffusée le mercredi entre 11h et 12h. Il a remplacé l'émission Hidden from History. On a commencé l'émission il y a environ 5 ans, je crois. On a commencé par explorer la réconciliation et maintenant on se concentre sur le concept de sentiment, l'impact des pensionnats autochtones, qu'est-ce que ça veut dire, l'héritage de l'addiction, l'héritage de la prise en charge des enfants en pensionnat qui continue de toucher les gens aujourd'hui. L'héritage de la pauvreté, l'itinérance, du suicide. C'est ce sur quoi nous penchons dans When Spirit Whispers. Tu vois, qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Avant tout, ça doit être la vérité. Les gens doivent être capables de pouvoir écouter notre vérité. Et c'est pour pouvoir écouter cette vérité et rééquilibrer la balance avec les Premières Nations que l'ONU a notamment défini dans l'article 16 de sa déclaration sur le droit des peuples autochtones que les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs propres médias dans leur propre langue et d'accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune. Mais aussi que les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone. Mais alors aujourd'hui, où en est-on?
I don't think it's effective today. I think it still needs to be applied and implemented from
Je ne pense pas que ce soit efficace aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore besoin d'améliorer des choses au niveau gouvernemental et à tous les niveaux, au niveau du management des stations de radio, même au niveau des programmes communautaires. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement ou des stations de radio d'appliquer cet article en particulier. C'est aussi notre responsabilité à nous, peuple des Premières Nations, d'avancer vers ce micro, d'avancer vers cette responsabilité. Il y a des gens qui vont créer de l'espace pour nous. Vous devez être prêts, vous devez avoir du contenu, vous devez avoir du matériel, vous devez avoir vos faits et préparer ces documents. On doit être prêt. Tu vois, ici, à Coop Radio, on a des émissions depuis 1995. À propos de revalorisation des langues, on a commencé avec une émission qui s'appelait The Speaker en 1995. On a invité des gens de la nation Musqueam et des gens de la nation Tsleil-o pour parler et apprendre les langues aux auditeurs. C'était une nouvelle initiative et on l'a mise en place avant même qu'il y ait un quelconque argent pour cette revalorisation des langues et de la culture, avant même qu'il y ait une quelconque recommandation de la Commission Vérité et Réconciliation des Nations Unies. Il n'y avait pas de recommandation qui disait que nous devions agir pour maintenir et revaloriser notre langue. On l'a juste fait. C'est le pouvoir des radios associatives et universitaires. On ne doit pas attendre de permission ou d'argent pour faire quelque chose au niveau associatif. Quand tu mets tout ça ensemble, tu peux arriver à des grandes choses. Et c'est ça qui me motive et c'est pour ça que je fais cette émission. En 2012, elle déclarait à un journal de la ville « J'ai appris la valeur de la langue et de la culture, ainsi que l'importance de leur revitalisation. L'histoire est liée à la langue et à la culture. La revalorisation de la culture des Premières Nations par la radio, Guenergy y croit, et elle n'est pas la seule. Si c'est une figure incontournable de la station vancouveroise, les nombreux membres qui animent ces émissions avec elle sont tout aussi impliqués dans cette aventure. Ils sont même déjà prêts à prendre le relais. »
Merci à Navugier pour son reportage qui non seulement est très bon, mais en plus parle du pouvoir que peuvent avoir les radios associatives, au-delà de la perception que l'on peut en avoir parfois de l'extérieur, un petit peu isolé, voilà. Alors que clairement pas, ça fédère de réelles communautés autour de vraies causes. Donc on la remercie encore. On va passer maintenant au deuxième reportage de cette émission, réalisé par Séverine Flock à Trondheim, en Norvège. Elle nous décrit ce que c'est de vivre un hiver norvégien quand on n'est pas habitué à de tels rythmes. Séverine Flock pour Cause Commune.
Depuis le 20 novembre 2018, le thermomètre est descendu en dessous de 0 degré à Trondheim, en Norvège. La ville s'est parée d'un fin manteau neigeux et d'illuminations de Noël. Actuellement, en cette fin novembre, le jour commence à 9h et se termine à 15h. D'ici le vendredi 21 décembre, date officielle du début de l'hiver, le jour va encore s'écourter pour durer seulement 4h30, entre 10h et 14h30. Dans certaines régions de la Norvège, au nord du cercle polaire, le soleil ne se lève jamais en hiver. C'est la nuit polaire. En été, c'est le contraire. Le soleil ne se couche jamais. On parle du soleil de minuit. L'hiver en Norvège peut être propice à des tendances dépressives du fait du manque de lumière. Les Norvégiens optent pour différents remèdes pour combler le manque de lumière du jour. Certains ne jurent que par l'huile de foie de morue, riche en vitamine D et très populaire en Norvège. La plupart des enfants norvégiens en prennent une cuillerée chaque matin. D'autres personnes préfèrent acheter des lampes produisant une lumière semblable à celle du jour. Je suis allée à la rencontre des habitants de Trondheim pour les interroger sur le mode de vie norvégien en hiver. J'essaie d'aller dehors à chaque fois qu'il y a du soleil et je regarde le soleil quand il y en a. Je prends de la vitamine D en petites capsules. Je sais que c'est dur pour les gens du sud. J'ai des collègues qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique qui ont des prescriptions de vitamine D. Certains ont des lampes spéciales pour avoir de la lumière du jour. Moi, je suis de Trondheim, donc je suis habituée.
Comme pour Tina,
Pour beaucoup de Norvégiens, l'hiver fait partie de leur façon de vivre. Les habitants continuent de vivre comme le reste de l'année. L'hiver et ses longues nuits sont intégrés dans la culture norvégienne. Les Norvégiens et Norvégiennes finissent l'école et le travail vers 16 heures. Ils dînent à 17 heures et prennent un souper vers 21 heures. Le sport aussi s'adapte. Par exemple, la saison de football professionnel en Norvège commence en avril et se termine en novembre. D'autre part, le ski est fortement intégré à la culture norvégienne. Le ski de fond est très populaire. D'ailleurs, en été et en automne, en se baladant en Norvège, on peut croiser un grand nombre de Norvégiens pratiquant le roller ski pour être fin prêt pour l'hiver. Les habitants de Trondheim que j'ai rencontrés ont tous insisté sur l'importance d'aller dehors dès que possible en hiver. Il suffit selon eux d'enfiler plusieurs couches de vêtements pour être bien couverts. Par exemple, les enfants dans les crèches et dans les garderies en Norvège sont toujours dehors, quelle que soit la météo. Le proverbe préféré des Norvégiens est d'ailleurs « Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær », ce qui veut dire « Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements ». Les Norvégiens sont des optimistes de l'hiver. Ils se concentrent toujours sur les points positifs de l'hiver et sur ce que la nature leur offre durant cette saison, comme la neige qui leur permet de skier. Parmi les merveilles de l'hiver en Norvège, il y a aussi les aurores boréales qui colorent le ciel de vert et de mauve durant les longues et froides nuits d'hiver. On peut les observer au nord de la Norvège d'octobre à mars. On peut dire que l'hiver norvégien, c'est davantage qu'une saison. C'est le mode de vie de tout un pays.
Merci à Séverine Flock pour son reportage. Nous allons maintenant passer à la première pause musicale de cette émission, puisque nous allons à Melbourne pour le prochain reportage afin de parler de la place grandissante qu'occupe le café dans la vie des gens en Australie. Et puisque je ne suis moi-même pas un consommateur de café, et que j'ai donc plein de clichés sur le café et ses effets, eh bien nous allons écouter le café. Une musique de Old Olaf qui aura au moins le mérite de dire que voilà, il faut consommer du café toujours avec modération. Le café de Old Olaf, vous êtes sur Cause Commune.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de me lever.
Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
le fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires du sentier, il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi, René, prends mon cigare et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné.
Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm partout ailleurs. Vous venez d'écouter Le Café, une chanson de Old Olaf. Je vous conseille d'aller découvrir par ailleurs cet artiste si vous ne le connaissez pas encore. Il est assez kiffant. Tout de suite, nous allons donc passer au troisième reportage de cette émission, réalisé par Atina Gendry. Il vous permettra d'en apprendre un peu plus sur la société australienne et notamment sur leur amour pour le café. Atina Gendry pour Cause Commune.
À 7h du matin, Smith Street et Sydney Road s'éveillent avec le bruit des chaises posées sur leurs pavés. Les coffee shops ouvrent leurs portes, les baristas retroussent leurs manches, le café est prêt à se faire moudre. 7h du matin, Melbourne s'éveille par l'un de ses traits les plus iconiques, la culture du café. Melbourne, réputée pour avoir une des meilleures coffee-cultures au monde. La ville compte 14 000 cafés, et 95% d'entre eux sont des cafés organiques, traditionnels, indépendants. Alors d'où vient cette culture du café, si prenante, si présente dans la vie culturelle de Melbourne? Dans les années 1880, il y a eu l'émergence du Temperance Movement, qui est né pour lutter contre la consommation d'alcool trop présente à Melbourne en ce temps. Et parce que s'abstenir de l'alcool voulait dire partir des pubs, le mouvement a dû trouver d'autres lieux de socialisation. Ces lieux, ça a été les cafés. En 1888, le Federal Hotel a été construit en ce sens, et il est devenu un lieu social majeur à Melbourne, et c'est dans cet hôtel que la culture du café a réellement commencé. Le sens de la communauté autour du café s'est étendu à Melbourne d'année en année sur le modèle de Federation Hotel. Et les petites rues des quartiers de Brunswick ou Fitzroy, que j'ai mentionné plus tôt, ne sont pas les seules à profiter de ces cafés organiques sur le bord du trottoir. Le CBD, le centre-ville, accueille une grande diversité de coffee shops et organise même des événements pour les maintenir compétitifs. Par exemple, il y a une fois par mois des courses au café qui ont pour but de mettre en concurrence les différents baristas. La culture du café est donc conséquente et très compétitive, et on peut le voir assez rapidement en se baladant dans les rues du Central District, car à chaque café, il y a une petite étiquette « Best Coffee in Town » ou « Best Coffee Ever ». Donc il y a beaucoup de pression sur les baristas melbournais, et ils font partie des meilleurs au monde. C'est tellement difficile de s'immerger dans leur univers que les universités elles-mêmes proposent des formations aux étudiants. Alors, quelques cours à $50, une première immersion bénévolat dans un café, et seulement après tout ça, vous pourrez songer à devenir un vrai barista. Pour les amoureux des graines qui ne souhaitent pas pratiquer, il y a également des cours du soir, où sont enseignées les origines des différentes saveurs, les influences culturelles du café, les techniques qui font en sorte qu'un café ait bon goût ou non. Et c'est sûrement pour ça que la culture du café a du charme ici, et qu'elle est si sociale. Car tout le monde prend le temps et l'intérêt de vouloir savoir d'où vient ce qu'on leur sert à déguster, de parler au barista et d'aller faire des marchés organiques pour engloutir de nouveaux cafés.
Du coup, je suis arrivée à Melbourne il y a 3 ans avec un working holiday visa. Et j'avais vraiment pour plan de travailler en tant que barista dans la ville. J'avais un bon background dans les hospitalités. J'avais travaillé dans pas mal de bars et cafés, mais je ne savais pas c'est ce qui m'attendait ici. On va dire qu'à Melbourne, il y a une culture sacrée du café. Ils ne rigolent pas vraiment avec ça. Ce n'est pas comme dans les autres villes en Europe. Enfin, ici, les coffee shops dressent leur table dehors très tôt le matin. Dans les rues un peu bohèmes de Melbourne, comme Smith Street, Sydney Road. Les Australiens se donnent rendez-vous avant l'université ou le boulot, et ils enjoy à mon café, ils se retrouvent pas autour de vin, d'un verre de vin, et de fin d'après-midi comme en France. C'est le café, les rues mignons, le début de matinée. C'est vraiment, c'est ce que j'étais venue chercher.
Début novembre, j'ai dû passer un essai dans un de ces cafés. Et c'était comme s'ouvrir au monde des baristas. J'ai compris à quel point ils prenaient toute cette culture du café extrêmement au sérieux. Au niveau pratique, par exemple. Partout dans la coffee culture, on vous fera apprendre par cœur la règle des 3 T. Timing, texture, temperature. Au niveau de l'ambiance, il y a, comme on l'a dit, une vraie éthique du monde du café. Un des baristas m'a raconté. À Brunswick, je m'assois sur le bord du trottoir quand la vie s'éveille. Et là, je vois tout ce qui fait que Melbourne est tellement cliché et tellement charmant à la fois. Ces petits Melbourniennes, une cigarette à la main, piercing au coin du nez, col roulé et pantalon rayé, qui s'asseyent et boivent leur café matinal sur Sydney Road. Et je suis content. Ce n'est pas tant le café en lui-même qui fait que toute cette culture a du charme, a-t-il rajouté. C'est la manière dont il est servi, c'est la manière dont les Australiens y sont tant attachés, et c'est la diversité des gens qui s'investissent dedans.
Merci à Tina Gendry pour son très bon reportage. Nous allons maintenant revenir en Europe pour aller à Prague retrouver Elisa Aubin, qui a cherché à sonder les jeunes Européens. J'entends par les jeunes étudiants et étudiantes en échange Erasmus qui se sentent citoyens européens. Elle a voulu les sonder pour voir les raisons de leur pessimisme. Je n'en dis pas plus et je vous invite à découvrir son reportage. Elisa Aubin pour Cause Commune.
Bonjour à tous, ici Elisa à Prague en République tchèque. Quand on effectue une année de mobilité dans un pays dont on ne connaît pas la langue, ce qui est mon cas dans la mesure où ici on parle le tchèque, le contact avec la population locale est plus difficile qu'ailleurs. Ainsi, j'avais du mal à imaginer de quoi j'allais bien pouvoir vous parler au sujet des Tchèques, de leurs coutumes, leurs idées politiques, dans la mesure où je n'en connais que très peu. La dernière fois, je vous parlais d'un certain esprit Erasmus qui serait partagé par les étudiants en mobilité en Europe. Aujourd'hui, je vais encore rester dans la communauté Erasmus pour vous parler d'un sujet qui m'a paru être une évidence, tellement il revient souvent dans nos conversations. Le pessimisme ressenti par ces jeunes étudiants des quatre coins de l'Europe. Le problème de la montée de l'extrême droite, plus que préoccupant dans certains pays, comme nous l'a montré Antoine Meyer dans son dernier reportage en Autriche, mais aussi la crise écologique, le manque de progressisme quant à certains sujets sociétaux, la crise migratoire, et j'en passe. Tant de sujets qui préoccupent et même inquiètent les jeunes de notre Europe. Bien évidemment, mon reportage ne se veut pas objectif. Je n'entends pas donner la voix à toute la jeunesse d'Europe. Il faut prendre en compte que les jeunes étudiants qui participent au programme Erasmus font partie des classes plutôt aisées de leur pays, qu'ils ont tous fait des études supérieures et qu'ils aiment voyager et découvrir d'autres cultures dans la mesure où ils se sont engagés dans un programme d'échange international. À travers les trois témoignages que je vais vous faire écouter, vous allez pouvoir entendre par vous-même le pessimisme d'une jeunesse européenne. Tout d'abord, voici le témoignage de Victoria, une jeune Polonaise qui va vous parler de l'homophobie.
Ce que je n'aime pas vraiment en Pologne et que je ne vis pas à Prague, c'est le fait qu'en Pologne, les gens sont vraiment homophobes et racistes. Et j'ai été vraiment très surprise dans un de mes cours quand je vis dans une grande ville, une des plus grandes villes de Pologne. Et 80% des gens de ma classe disaient que si quelqu'un était trans, il devait aller chez le médecin. Donc dans une classe de 30, peut-être que mes maths ne sont pas très bons à cette heure-ci, mais seulement 5 personnes sur 30 ont dit que c'était normal, que les trans n'avaient pas besoin d'aller chez le médecin. Les autres disaient que les trans étaient malades. C'est pourquoi Erasmus, pour moi, est une échappatoire à l'homophobie et aux personnes racistes. Je suis vraiment heureuse de ça. À présent, je vous laisse écouter Titouan, étudiant français, au sujet des élections européennes et de sa vision de l'Europe en général.
Pourquoi je suis pessimiste par rapport à l'Europe ? C'est parce qu'après avoir rencontré des Erasmus qui, eux, veulent aller vers le progressisme et vers une Europe optimiste, eux ne croient plus en leurs gouvernements locaux. Ça veut dire que qui est-ce qui croit en leurs gouvernements locaux ? Et c'est pareil que Trump, c'est les réactionnaires, c'est les gens qui ne vont pas vers moi l'Europe que je veux, et c'est vers une Europe que je trouve pessimiste, qui est une Europe fermée, fermeture des frontières, le nationalisme, et c'est pour ça que je suis pessimiste, parce que les gens qui croient en l'Europe, que je crois également, ne croient plus en leurs gouvernements locaux. Donc pour moi, c'est pessimiste.
Pour terminer, voici le témoignage de Linda, une Slovaque faisant ses études à Prague. Elle nous parle de la crise migratoire à travers la réaction des Slovaques face à la déclaration politique de Marrakech, supposée faciliter la coopération entre les pays africains et européens au sujet des migrations. Aussi, notre gouvernement en Slovaquie n'est pas le meilleur pour le moment. Tu connais la déclaration de Marrakech ? Ou comment elle l'appelle en anglais ? Ils sont en train de proposer ce document. Je ne connais pas le nom de ce document parce que je l'ai lu en slovaque. Et c'est un document que tu n'as pas à suivre vraiment, ça ne rend rien d'obligatoire par la loi.
mais c'est plus une suggestion de comment gérer la crise migratoire, qui est toujours en cours, même si on prétend que non, car il n'y a pas de migrants ici. Enfin, je veux dire réfugiés, car il y a des migrants, mais je suis une migrante aussi. Et les gens en font une histoire. Notre ministère des Affaires étrangères a aidé à écrire cette déclaration. Et maintenant, le gouvernement débat à propos de ça. Le gouvernement ne veut pas le signer, même si c'est quelque chose qui est censé nous aider, pas quelque chose qu'on est obligé de suivre. Et les gens, ils en font un gros problème parce que, tu sais, les gens vont venir ici et détruire le pays avec leur religion et violer nos femmes et des trucs comme ça. Et je suis, oh là là, est-ce que vous êtes encore en train de dire des trucs comme ça ? L'homophobie, l'extrême droite, la gestion de la crise migratoire, tant de sujets qui font aujourd'hui peur à une partie de la jeunesse européenne qui ne se sent pas en adéquation avec les gouvernements qui les représentent. J'espère que ces trois témoignages vous auront permis de comprendre un peu plus le pessimisme qui règne chez une partie des jeunes européens concernant la politique et la gestion de certaines questions. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.
Merci à Elisa Aubin pour son très bon reportage, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à ces interviews. D'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent, mais si cette émission peut se faire, c'est aussi grâce non seulement aux reporters, mais aux personnes qui parfois interviennent dans la traduction des interviews et aux interviewés eux-mêmes. Donc on remercie chaleureusement tout ce beau monde. Nous allons donc maintenant marquer la seconde pause musicale de cette émission. Nous irons en Écosse pour parler d'un petit objet qui se trouve partout, sur tout le monde, lorsque la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale arrive. Je vous propose donc de découvrir un groupe écossais qui fait de la musique folklorique écossaise avec des accents rock. Je trouve ça très plaisant à écouter. Et c'est un morceau qui plus est qui reprend un poème sur la bataille de Waterloo. Ce groupe s'appelle Old Blind Dogs et le morceau est Battle of Waterloo.
Soldier or a widow you will be.
Vous venez d'écouter le groupe écossais All Blind Dogs. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm, partout ailleurs. Nous allons maintenant passer au dernier reportage de cette émission, réalisé par Laura Lagache. Cette fois-ci, elle s'est intéressée à une petite fleur que l'on voit apparaître un peu partout, sur toutes les vestes, à l'approche de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Laura Lagache, pour Cause Commune.
Celle que l'on appelle la Grande Guerre s'est terminée le 11 novembre 1918 à 11h, soit la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918. 4 ans de guerre et 4 ans d'homme au front. En Écosse, comme au Royaume-Uni en général ou encore au Canada, novembre est ainsi devenu depuis longtemps le mois de la commémoration. Dès le début du mois, les poppies, ces petits coquelicots de papier rouge, fleurissent sur les vestes des gens. Rare est l'individu non porteur de la fleur. Une manière de commémorer qui touche un très large public, pour ne pas dire tout le monde. Mais d'où vient-elle ? Pour le savoir, il faut remonter à la fin de l'année 1914, lors de la dernière grande bataille de la première année de guerre, la bataille d'Ypres, en Belgique. Là, au cœur des Flandres, un soldat canadien, John McCrae, a remarqué la présence de coquelicots sur les champs de bataille. Et malgré l'horreur, malgré la terre retournée par les bombes, les coquelicots inondaient le sol d'un rouge apaisant. D'un rouge non sanglant. Et inspiré par cette vision, John McCrae écrit alors le poème « In Flanders Fields », poème qui rapidement est devenu très populaire. Et le symbole du poppy fut repris pour commémorer les combattants de la Première Guerre mondiale. Je vous laisse maintenant avec une version du poème récité par Leonard Cohen et je vous le traduirai ensuite.
In Flanders fields, the poppies blow between the crosses, row on row that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago, we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved. And now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands, we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields.
Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent. Entre les croix, qui, une rangée après l'autre, marquent notre place. Et dans le ciel, les alouettes, qui chantent encore valeureusement, volent, à peine audibles, parmi les canons qui tonnent. Nous sommes les morts. Il y a quelques jours encore, nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil. Nous étions aimés. Aujourd'hui, nous gisons dans les champs de Flandre. Reprenez votre combat contre l'ennemi. À vous, de nos mains tremblantes, nous tendons le flambeau. Faites le vôtre et portez-le bien haut. Si vous le laissez tomber, les morts ne trouveront pas de repos, bien que les coquelicots fleurissent dans les champs de Flandre. Et le voici, le poème qui a donné naissance aux poppies. Tous les poppies d'Écosse sont fabriqués au Ladies Hayes Poppy Factory à Édimbourg. L'usine a ouvert en 1926 et les poppies étaient fabriquées à l'époque par deux personnes avec du papier rouge et une paire de ciseaux. Aujourd'hui, il y a environ 40 militaires avec des problèmes de santé qui y travaillent. Ils fabriquent 5 millions de poppies par an pour le Scottish Poppy Appeal. Et tous les poppies sont encore faits à la main.
Merci à Laura Lagache pour ce superbe reportage, encore une fois. C'est toujours un plaisir de pouvoir clore une émission sur une petite touche esthétique. Parce que c'est vrai que ces reportages ont quelque chose d'esthétique. J'espère que ce numéro vous a plu. Je vous rappelle que la prochaine émission ne sera pas samedi prochain, mais dans 2 semaines. Et ce sera la dernière de 2018. Nous reviendrons le 19 janvier. Et j'espère que vous nous attendrez avec impatience. C'était Joachim Sarfati pour La Casa des Babel. Passez une bonne journée sur Cause Commune.